Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est donc avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, l'alerte enlèvement levée au lendemain de la disparition d'Eya. Mais la fillette de 10 ans n'a pas été retrouvée. Elle a été enlevée hier matin sur le chemin de l'école par son père et un complice, père qui pourrait déjà avoir fui avec elle à l'étranger, selon les enquêteurs. À suivre aussi une assemblée générale sous haute tension pour Total Énergie. Aujourd'hui à Paris, les actionnaires du groupe pétrolier ont été accueillis par des militants écologistes avec quelques échauffourées à la clé. Les maladies nosocomiales qui progressent, un patient sur 18 qui entre aujourd'hui à l'hôpital en est victime. Et puis le tournoi principal de Roland-Garros qui débute ce week-end sans grand espoir de voir un Français succéder à Yannick Noah. Pourquoi les tricolores n'y arrivent plus depuis 40 ans? On posera la question à Jean-Michel Rascol. Et c'est aussi d'une certaine manière la question du jour sur notre site RTL.fr. Selon vous, un Français gagnera-t-il Roland-Garros dans les 10 prochaines années? On se laisse un peu de marge.
Le siècle prochain. RTL toujours plus proche de vous. Dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui à Marseille, là aussi sur les traces d'un exploit historique. C'était il y a 30 ans, l'OM devenait champion d'Europe, à jamais les premiers. Et vous allez voir qu'à Marseille, on a décidé de fêter cet anniversaire en grand. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien et à l'approche d'un week-end prolongé pour beaucoup. Pourquoi ne pas sillonner la France en train? On va vous donner quelques idées d'escapades en TER. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture et du polar suédois au programme aujourd'hui avec Camilla Läckberg.
La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. On pourra parler effectivement de Yannick Noah en 83 et de l'OM en 93 avec les auditeurs 32-10.
La météo avec vous aujourd'hui, Valérie Quintin. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Valérie?
Pour l'instant, c'est presque tout bleu partout. On a juste un petit peu de grisaille sur la pointe bretonne, mais ça va évidemment tourner à l'orage dans le sud.
Merci Valérie. Les détails à la fin du journal.
RTL Midi.
L'alerte enlèvement a été levée au lendemain de la disparition de la petite Eya à Fontaine en Isère, mais la fille de 10 ans n'a pas été retrouvée pour autant. Elle a été enlevée hier matin par son père et un complice alors qu'elle était sur le chemin de l'école avec sa mère. Et d'après les enquêteurs, Bertrand Frachon, le père et l'enfant pourraient déjà avoir quitté la France.
Et oui, Céline, alors depuis la levée de l'alerte enlèvement décidée ce matin par le parquet de Grenoble, le procureur Éric Vaillant a fait savoir que les éléments recueillis laissent à penser que la fillette, le père et son complice se trouveraient désormais à l'étranger. Les destinations possibles sont la Suède et la Tunisie, puisque le père Khaled Sassi possède ces deux nationalités. Selon le procureur, la police judiciaire a reçu près de 70 messages suite à l'alerte enlèvement. Certains seraient toujours en cours d'exploitation. Une information judiciaire devrait être ouverte dans la journée pour permettre la délivrance de mandats d'arrêt. Les services de police européens sont en contact avec les pays dans lesquels le père est susceptible de se rendre. Ici, à Fontaine, les cours étaient assurés ce matin dans l'école fréquentée par Eya.
Bertrand Frachon à Fontaine en Isère pour RTL. C'est un malade, il ne faut pas se cacher les choses. L'avocat de l'homme suspecté d'avoir mortellement poignardé une infirmière lundi à Reims a insisté ce matin sur la difficulté d'avoir une interaction avec son client aux lourds antécédents psychiatriques. Cet homme de 59 ans comparaissait en effet aujourd'hui devant la cour d'appel de Reims qui devait statuer sur sa capacité à être jugé, mais dans un autre dossier, l'agression au couteau déjà qui avait fait 4 blessés en 2017 dans l'ESAT où il travaillait. Cette audience a été renvoyée.
RTL Midi.
L'Assemblée générale de Total Énergie s'est ouverte dans un climat tendu ce matin à Paris.
Oui, des militants écologistes s'étaient en effet rassemblés pour manifester et accueillir les actionnaires du groupe pétrolier pour l'encourager à se détourner des énergies fossiles. Peu de dialogue, quelques échauffourées à la clé. Clémence Dubois est la porte-parole de l'association 350.org.
Il ne faut plus un seul nouveau projet fossile et gazier. Or, Total continue à faire du greenwashing en mettant l'accent sur les soi-disant énergies renouvelables. Mais qu'est-ce que ça représente dans leurs investissements? Qu'est-ce que ça représente dans leur activité? Quasiment rien. Et donc, à chaque fois qu'on développe un nouveau projet gazier, pétrolier, c'est une déclaration de guerre. Aujourd'hui, il faut absolument reprendre la main et mettre hors d'état de nuire l'industrie fossile.
Un propos recueilli pour RTL par Arnaud Touche, le le gouvernement lui aussi met la pression sur Total. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher appelle le groupe à aller plus vite sur le développement des énergies renouvelables.
On les attrape à l'hôpital, les maladies nosocomiales ont augmenté de près de 15% ces 5 dernières années.
Ouais, après avoir baissé régulièrement au début des années 2000, ce rebond interroge. Odile Pouget, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, un patient sur 18 qui entre à l'hôpital contracte une maladie nosocomiale. Et ça s'explique, Odile, notamment par le Covid.
Mais oui, absolument, puisque les infections Covid nosocomiales, donc contractées dans un établissement de santé, représentent la moitié de cette hausse. Rien d'étonnant à cela. L'enquête de Santé publique France a été réalisée sur plus de 1000 établissements entre mai et juin 2022, alors que les hôpitaux étaient encore affectés par la pandémie. Si l'on exclut le Covid, la proportion de patients infectés est tout de même en nette hausse, 7%. Les responsables se nomment staphylocoque Doré et Chérica Coli. Ce sont les services de réanimation, un patient sur quatre concerné, et les centres de lutte contre le cancer qui sont les plus concernés, avec évidemment des malades plus vulnérables, soumis à des dispositifs invasifs, des sondes urinaires, des cathéters pour les perfusions, des assistances respiratoires par lesquelles passent ces bactéries. Autre enseignement de cette enquête, un patient hospitalisé sur 6 reçoit aujourd'hui un traitement antibiotique, chiffre en hausse par rapport à 2017. Ce n'est pas bon signe, disent les spécialistes, car certaines bactéries finissent par devenir résistantes aux antibiotiques. C'est une menace même de santé majeure. 4200 décès chaque année en France sont liés à des infections nosocomiales.
Odile Pouget, spécialiste santé ici pour RTL.
Un nouveau week-end prolongé en perspective et il va faire beau. Valérie nous l'a dit, pour de nombreux Français, lundi c'est la Pentecôte. L'Esprit Saint va descendre sur vous.
Sur les apôtres au départ quand même. En théorie, donc, c'est un jour de travail comme les autres hein, depuis l'instauration de la journée de solidarité. Mais dans les faits, effectivement, il reste souvent chômé. Il n'y a d'ailleurs pas d'école non plus lundi. Un week-end de 3 jours, donc. Et cette fois, la météo est aussi au rendez-vous dans le sud. On le fera le point dans quelques instants avec Valérie Quintin. C'est le cas dans le sud, Valérie, au nord aussi?
Alors, surtout au nord, plus au nord qu'au sud, finalement. Ah bon? Oui, parce qu'au sud, on a des orages qui vont redémarrer à chaque fois les après-midi. C'est le cas aujourd'hui, ce sera le cas tout au long du week-end. Pour l'instant, le ciel est bien dégagé pratiquement partout en France. On a juste un tout petit peu de grisaille sur le Finistère ou encore vers les Côtes d'Armor ou la pointe du Cotentin, mais c'est vraiment très très peu de choses. Et ça commence à bourgeonner en Auvergne. Et précisément, Auvergne, Rhône-Alpes et régions pyrénéennes vont être touchées par des orages cet après-midi et ce soir. Et ce sera le cas également de la Corse, pas du pourtour méditerranéen. Et tout cela avec des températures bien printanière, 17 degrés au Havre cet après-midi, 20 degrés à Lille, 24 à Rennes, à Nevers et Paris, 25 à Besançon et 27 degrés à Agen et à Toulon.
Merci Valérie.
RTL Midi, un jour chez vous.
C'était un mercredi, il faisait un soleil de Provence à Munich, ce 26 mai 1993, personne ne l'a oublié à Marseille.
Non, effectivement, Marseille ou toute une ville s'apprête à célébrer ce soir.
Vous n'étiez pas né, vous, en 93?
Non, je n'étais pas né, mais ces petites phrases me disaient quelque chose. J'ai l'impression d'avoir entendu ça déjà quelque part. Marseille, donc, qui s'apprête à célébrer le 30e anniversaire du sacre. À jamais les premiers, les Marseillais, 30 ans, donc jour pour jour après la seule Ligue des Champions gagnée par un club français. Les supporters ont prévu de fêter cet anniversaire avec la démesure qui les caractérise, Hugo Hamelin.
Ouais, nuit agitée sur le Vieux-Port en perspective avec des supporters qui visent un nouveau titre, pas européen celui-là, mais mondial. La plus longue chaîne de fumigènes jamais vue, des quartiers nord jusqu'au Calanque, avec près de 10 000 fumigènes qui seront craqués. Même la bonne mère sera enfumée ce soir de bleu et blanc, les couleurs de l'Olympique de Marseille. Ce sera vers 23h après une grande cérémonie qui va se tenir à l'hôtel de ville avec toute l'équipe de 1993. À la manœuvre pour organiser cet hommage gargantuesque, le groupe de supporters des Sauce Winners et leur capot charismatique Rachid Zerwal, présent au stade il y a 30 ans.
J'ai jamais pu décrocher, c'est pire qu'une maladie. Nous, on était impliqués un peu de partout à l'époque, on était vachement proches de Tapi. Alors cet hommage, on lui doit, sa femme, elle sera au balcon, l'équipe de 93, elle y sera aussi. Il faut profiter pour saluer tout le monde, se retrouver dans cette fête. Les jeunes, ils l'ont pas connu et on va essayer de leur faire revivre un peu ce qu'avait été Marseille à l'époque. Voilà, avec la ferveur et l'enthousiasme d'un vrai supporter marseillais.
L'esplanade qui borde le stade Vélodrome va d'ailleurs être rebaptisée du nom de Bernard Tapie. Ce sera officiel ce soir et la finale contre le Milan AC va être rediffusée en intégralité sur écran géant. On sait déjà que la foule va vibrer à la 44e minute quand l'OM va obtenir un corner qui en fait n'existait pas.
Hugo, j'ai quelques noms qui vont vous faire plaisir. Barthès, Deschamps, Sauzet, Dimeco, Angloma, mais aussi Bokchik, Voleur, Pelé. Et puis, j'ai envie de penser à René Malville également. Et puis, les Ultras, les Dodgers, les Yankees, Raymond Goethals, Bernard Tapie. Exactement. Donc, cela ravive des émotions inoubliables pour ceux qui ont vécu cette victoire il y a 30 ans.
Oui, et avec tous les témoins avec qui j'ai pu en parler, vraiment, ils m'en parlent avec encore des étoiles dans les yeux 30 ans après. Hein, c'est vraiment dingue, que ce soit ceux qui l'ont suivi dans les bars de Marseille ou ceux comme Bruno qui ont eu la chance de faire partie des 25 000 Marseillais à se rendre à l'Olympia Stadion de Munich.
Alors, le 26 mai 93, j'étais dans le train. Il y avait du Ricard, je me souviens. Arrivé au stade, c'était un stade coupé en deux, quoi. De notre côté, c'était tout blanc, maculé. On avait fait des pompons, tous. Et ces pompons-là, ça chantait comme des cigales. Ça faisait tch, 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 tch. Moi, j'ai failli faire un infarctus. Parce que mon cœur, il a fait 6000 tours dans la seconde. Je pense qu'on va s'en souvenir pendant des décennies.
Pour transmettre cette mémoire, cette fierté collective aux jeunes générations qui malheureusement n'ont pas connu leur jour de gloire. Hein. Ça peut paraître un peu démesuré, c'est vrai, mais comme le dit si bien l'édito du journal La Provence du jour, en ce moment on se rassemble plus dans la colère que dans la joie. Alors on va profiter de ce moment où tout le monde aime tout le monde.
On essaiera d'être avec Cyprien Signy tout à l'heure avec les auditeurs ont la parole parce que chaque 26 mai à partir de minuit, les supporters marseillais s'envoient des textos et se souhaitent bonne année. C'est un jour, c'est quasiment un jour férié, mais c'est vrai. Hein. Et Cyprien, j'espère qu'il sera avec nous tout à l'heure. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour et on va revenir sur ce sondage BVA qui ausculte le rapport des Français à l'immigration avec quelques paradoxes peut-être. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Au-delà des fantasmes, quel regard les Français portent-ils sur l'immigration alors que les Républicains ont dévoilé leur projet sur le sujet, que le gouvernement planche aussi sur un projet de loi qu'il présentera cet été? Le baromètre politique BVA-RTL a décidé d'interroger les Français sur ce thème. Bonjour Christelle Craplet.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de BVA Opinion. L'immigration, c'est un sujet qui préoccupe les Français, mais qui pour autant n'est pas forcément prioritaire à leurs yeux.
Oui, c'est exactement ça. Quand on leur demande en fait directement si c'est un sujet qui les préoccupe, ils sont très nombreux, hein, plus des deux tiers, 69%, à nous dire que oui, ça les préoccupe, même si, en fait, pour 36% d'entre eux, ça les préoccupe un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, quand on leur remet tout ça en perspective par rapport à d'autres thématiques, en leur demandant de hiérarchiser, eh bien là, l'immigration n'est plus citée qu'en sixième position, et c'est un thème qui est bien moins prioritaire à leurs yeux que le pouvoir d'achat, notamment, qui constitue vraiment leur priorité numéro un.
Et sur le sujet, le jugement des Français est souvent tranché et sévère. 67% des personnes interrogées considèrent ainsi qu'il y a aujourd'hui trop d'immigrés dans le pays.
Oui, quand on les interroge en fait sur un certain nombre de propositions, on leur demande s'ils sont d'accord ou pas. Effectivement, ils émettent des jugements quand même assez sévères sur ce sujet. Comme vous le disiez, plus des deux tiers d'entre eux considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. Et quasiment la même proportion aussi, 64%, nous disent qu'en fait, les immigrés ne sont pas bien intégrés en France. Donc on voit qu'il y a une vision, pour la majorité d'entre eux, assez négative du sujet.
C'est peut-être ça qui me paraît le plus significatif, pour tout dire, de ce sondage, parce qu'ils sont également favorables à un durcissement des règles.
Oui, on les a interrogés sur un certain nombre de mesures qui étaient à l'étude ou proposées ou par le gouvernement ou par LR. Et il y a effectivement un certain nombre de mesures assez coercitives qui suscitent une large approbation. Le fait de faciliter par exemple les expulsions des personnes étrangères si elles ont commis un crime ou un délit, 90% des Français sont pour, donc c'est quasiment un consensus. Et d'autres propositions qui ont pu être mises sur la table par LR, comme le référendum sur la politique migratoire, là aussi, les trois quarts des Français y sont favorables et ils sont même 63% à estimer qu'on pourrait déroger au droit européen sur ce sujet-là. Donc sur un certain nombre de thématiques, effectivement, les jugements sont assez durs. Mais après, il y a d'autres éléments aussi qui viennent un peu contrebalancer ces résultats.
C'est ça, les Français se disent aussi favorables à la régularisation des sans-papiers dans les secteurs en tension. En fait, on pourrait résumer ça en disant, de manière un peu provocante, l'immigré, d'accord, mais uniquement quand on en a besoin.
Il y a une forme, effectivement, peut-être chez certaines personnes de pragmatisme sur le sujet, parce que c'est quand même 68% des Français qui sont pour la, et on l'avait formulé comme ça, la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. Peut-être aussi qu'ils considèrent, parce qu'ils savent, il y a beaucoup de reportages de sujets sur cette thématique, que ces métiers-là sont difficiles, qu'on ne trouve pas forcément beaucoup de personnes, et que celles qui sont amenées à y travailler depuis longtemps ont le droit finalement d'avoir des papiers. C'est peut-être aussi une manière de reconnaître leur présence et leur apport à la vie et au travail en France.
Quelle formation politique pourrait tirer parti de tout cela ?
Eh bien, franchement, pas beaucoup, si ce n'est aucune. En fait, on a testé un certain nombre de formations politiques. On leur a tout simplement demandé aux Français s'ils faisaient confiance à cette formation en matière d'immigration. Et le premier constat, c'est qu'il y a quand même un discrédit très fort de la classe politique sur cette thématique. Il n'y a aucune formation qui ne recueille une majorité de jugements positifs, de confiance. Celui qui arrive en tête, c'est le Rassemblement National. C'est le parti qui est jugé le plus digne de
confiance. Mais c'est plutôt logique d'ailleurs, parce que le Rassemblement National n'a jamais été aux affaires. Alors que
oui,
les
c'est
autres,
toujours plus facile.
Voilà,
quand
les
on
autres
est, quand
partis
on est dans
ont été aux affaires et n'ont pas trouvé la bonne solution, peut-être, en tout cas aux yeux des Français.
Oui, mais en même temps, ce qui peut être un peu aussi étonnant, c'est qu'il fait de ce sujet-là un thème très important de son agenda. Et finalement, il n'y a que 36% des Français qui lui font confiance dans ce domaine-là. Donc ça peut être aussi le pendant pour montrer que voilà, certes, il tire profit de la situation parce que par rapport aux autres, il est peut-être jugé un peu mieux. Mais néanmoins, c'est qu'une petite minorité de Français qui lui fait confiance alors que c'est son sujet de prédilection.
Eh bien, merci beaucoup Christelle Craplet. Je rappelle que vous êtes la directrice de BVA Opinion. Merci pour cette analyse très détaillée de ce baromètre politique BVA RTL, lors duquel on a donc interrogé les Français sur leur regard sur l'immigration dans le pays.
Si vous avez un sentiment de culpabilité quand vous prenez l'avion, ça s'appelle le Flixcam. Eh bien, nous allons en parler dans une seconde. C'est un terme suédois.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Votre vie.
RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Et j'entends siffler le train.
Vous parliez juste avant la pause, Pascal, du Flixcam, ce terme suédois qui désigne le sentiment de culpabilité que ressentent certaines personnes lorsqu'elles se déplacent en avion. Eh bien, voici venu le temps du tagskrit, aussi appelé train bragging. C'est un terme suédois, toujours, qui renvoie, lui, à la fierté de voyager en prenant le train, tendance qui s'affiche notamment sur les réseaux sociaux plus écolos. Le train séduit, notamment à l'approche des vacances d'été. Et c'est justement l'objet de ce livre, le guide Vacances en train, c'est aux éditions Michelin, 40 voyages sans voiture pour parcourir la France de gare en gare. Bonjour Philippe Aurin.
Bonjour.
Vous êtes le directeur éditorial des Guides Verts Michelin. Ce guide, on pourrait le qualifier d'ode au TER, au territoire aussi ?
Ode au TER, ode au territoire, oui, parce qu'en fait, nous empruntons là des petites lignes, donc des petites lignes qui permettent de découvrir des aspects parfois inattendus de la France avec de très beaux parcours, la vallée de la Charente, le train des Pignes, énormément de petites gares dans lesquelles on peut s'arrêter avec son vélo ou à pied, faire des randonnées, pique-niquer, donc on indique aussi des adresses de marchés, de petites boutiques de bouche.
Vous l'avez rédigé en partenariat avec la SNCF et avec des cheminots qui racontent leurs lignes.
Oui, tout à fait. En fait, il faut prendre ces petites lignes pour parfois s'asseoir à gauche ou à droite pour avoir le bon point de vue et puis aller à la rencontre de ces personnes qui font ça tout le temps, qui sont tout le temps dans leur train et qui apprécient énormément de pouvoir avoir un échange avec le voyageur. Donc c'est pour cela qu'on a proposé ces interviews, ces portraits de cheminots, mais pas que, il y a aussi des chefs de gare.
Et ces lignes, elles sont restées en place alors qu'elles ne sont sans doute pas rentables, donc c'est le service public et c'est plutôt une bonne chose finalement.
C'est d'autant plus une bonne chose qu'on a quand même un engouement réel pour le sujet. Juste sur cet ouvrage qu'on a sorti l'année dernière, on en a vendu plus de 10 000 exemplaires. On a fait un partenariat également avec différentes régions et on vient de sortir un guide aussi sur les parcours en train en Occitanie. Donc il y a une véritable, un véritable engouement du public pour ces petites lignes.
C'est le moyen le plus économique de voyager aujourd'hui, le TER. On vous pose la question parce qu'à l'inverse, on pointe souvent les prix très élevés du TGV.
Oui, oui. Alors le TER, oui, d'autant plus que vous avez des incitations en région pour prendre le train. Je crois qu'en Occitanie, ça ne vous coûte quasiment rien lorsque vous avez moins de 25 ans. Vous avez en plus les facilités pour transporter votre vélo. Et on est quand même là sur des lignes qui sont très soutenues par les régions parce qu'elles constituent des axes aussi importants et les seules alternatives à la voiture.
J'ai le sentiment quand même qu'en France, souvent, on a privilégié le TGV, mais qu'on a laissé, hélas, ces lignes entre petites villes ou moyennes villes un peu en déshérence. Je pense par exemple à la gare Saint-Lazare, quand vous allez en Normandie, c'est pas extraordinaire les lignes qui sont proposées. Je pense à Angoulême, entre Angoulême et Bordeaux, il n'y a pas non plus une ligne tous les jours, il pourrait en avoir davantage. Ça, c'est un choix stratégique qui n'a pas été fait dans les années 80.
Oui, et vous citez, vous avez cité la gare d'Angoulême, la ligne entre Angoulême et Limoges, il y avait eu un affaissement, ça fait 3 ou 4 ans qu'elle est fermée, les élus en parlent. Mais il n'y a pas de réouverture, alors qu'en fait, c'est une liaison entre deux villes relativement importantes.
Bien sûr.
Pour servir à des étudiants.
Bien sûr, et même Bordeaux, c'est une ville extrêmement chère. S'il y avait des Angoulême-Bordeaux régulièrement, tous les gens qui habitent à Bordeaux pourraient être à Angoulême et se rendre chaque matin travailler. Je trouve que ce maillage-là n'est pas très réussi en France. En tout cas, pas toujours réussi.
Il va y avoir d'autres sociétés avec l'ouverture à la concurrence, et notamment sur le sud-ouest. Une compagnie qui s'appelle Le Train, je crois, qui va proposer des allers-retours entre les différentes gares de la région pour donner justement l'aspect plus navette que vous évoquiez là.
Dans votre ouvrage, c'est vraiment l'objet loisir, vacances du train qui est mis en avant. Pourquoi le train, selon vous, excite toujours autant l'imaginaire aujourd'hui encore? Alors qu'on est loin de l'Orient Express avec les TER qui sillonnent le pays quand même.
Alors, au niveau confort peut-être, mais au niveau paysage, on ne l'est pas. Et puis, comme vous le disiez en préambule, il y a vraiment un engouement, notamment de la part des jeunes, pour utiliser des moyens de transport qui sont plus écologiques, plus souples. Et puis cette volonté aussi de prendre son temps. Vraiment prendre son temps, profiter de l'instant, redécouvrir pour les plus anciens comme moi le plaisir de voir le paysage défiler, prendre conscience du voyage. En fait, prendre le train, pour beaucoup, ça revient à, entre guillemets, conscientiser le déplacement que l'on va faire et se dire que, eh bien, on peut le faire peut-être en un peu plus de temps, c'est pas grave. Alors là, je sors du cadre des petites lignes, mais c'est vrai qu'un Paris-Barcelone, c'est 6h30 en train, donc là c'est en TGV, et c'est pas donné, contre 1h40 en avion, mais après...
C'est moins contraignant le train.
C'est moins contraignant. C'est-à-dire
que vous allez dans la gare, vous êtes dans le centre-ville, vous n'avez pas 40 km, c'est moins stressant peut-être aussi pour certaines gens.
Et puis votre...
Il y a moins de contrôle, moins de sécurité.
Oui, et puis votre empreinte carbone... là, il n'y a pas photo, quoi. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est extrêmement important de mener à bien ce projet.
Si vous n'avez pas encore réservé vos vacances pour l'été, on vous recommande vraiment ce livre, Vacances en train, 40 voyages sans voiture pour parcourir la France de gare en gare et à des tarifs, on peut le dire, très compétitifs avec ce moyen de transport-là. C'est donc aux éditions Michelin. Merci beaucoup, Philippe Aurin.
Je vous en prie.
L'info revient dans une seconde.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30. 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
L'homme qui a poignardé mortellement une infirmière lundi au CHU de Reims était devant la justice ce matin. Justice qui devait se prononcer sur la responsabilité pénale de cet homme de 59 ans dans un autre dossier, une agression au couteau déjà il y a 4 ans. L'audience a été renvoyée, mais Cindy Hubert a pu apercevoir l'accusé. Elle nous racontera notamment la manière dont elle s'est entretenue avec ses avocats. Émotion toujours très vive à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais après le suicide de Lindsay. Cette adolescente qui aurait dû fêter ses 14 ans avant-hier a mis fin à ses jours le 12 mai dernier. L'affrontement entre deux mondes ce matin à Paris où des militants écologistes manifestaient pour accueillir les actionnaires de Total Energy. Ils sont dans leur rôle d'alerter ces militants, a réagi à l'instant la première ministre Elisabeth Borne. Le tournoi principal de Roland-Garros débute dimanche et 40 ans après l'exploit de Yannick Noah. Cette question du jour sur notre site RTL.fr. Un Français gagnera-t-il Roland-Garros dans les 10 prochaines années selon vous? Pourquoi les Français aujourd'hui ne brillent pas à Porte d'Auteuil? On posera aussi la question à Jean-Michel Rascol dans une dizaine de minutes. Les fans de Beyoncé qui font déjà le pied de grue au Stade de France, certains y ont passé la nuit en attendant donc Queen Bee qui va s'y produire ce soir. Et puis la culture, c'est aussi LVT Midi juste avant 13h. Aujourd'hui, nous allons parler littérature et polar suédois avec Camilla Lackberg.
Et on sera avec Stéphane Boutsock à partir de 14h en direct de Cannes. Est-ce que vous avez suivi le défilé des stars? Est-ce que Cannes vous fait toujours rêver?
La météo et les prévisions complètes pour ce week-end à la fin du journal. Mais déjà un indice avec vous, Valérie Quintin, pour cet après-midi.
Eh ben c'est pas mal, hein, c'est plutôt bien ensoleillé, sauf que ça va à nouveau tourner à l'orage dans l'après-midi et en soirée dans la moitié sud du pays.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
L'audience était prévue de longue date. L'homme qui a mortellement poignardé l'infirmière Karen Mézino lundi à Reims comparaissait aujourd'hui devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Reims pour savoir s'il est en mesure d'être jugé. Alors non pas pour le drame du début de la semaine, mais pour une autre agression commise, elle, en 2017 dans l'ESAT où il travaillait. Il avait alors blessé 4 personnes, là encore au couteau. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Vous avez assisté ce matin à l'audience qui a été renvoyée, mais vous avez pu voir l'accusé dans le box.
Oui, l'homme paraît si frêle et si fragile au milieu de tous ceux qui le gardent. 4 agents de l'administration pénitentiaire, 2 infirmiers en blouse blanche, les joues creuses, les paupières closes. Il est incapable de tenir debout. Alors il reste assis, prostré dans le box. Pendant toute l'audience, l'accusé ne semble pas remarquer la salle ou la présidente qui lui demande « Vous savez où vous êtes, monsieur, vous comprenez ce qui se passe, vous avez envie de dormir, vous préféreriez être dans l'ambulance, monsieur ?» L'accusé bredouille des mots qu'on ne comprend pas, les ragards. Et c'est exactement dans cet état que l'a trouvé son avocat, Maître Chalot, lorsqu'il l'a rencontré dans la nuit de mercredi, quelques heures après le meurtre de l'infirmière.
C'est un malade. Voilà, il ne faut pas se cacher les choses. Vous l'avez tous vu, c'est quelqu'un qui est malade psychiatriquement, qui a déjà fait un passage à l'acte, là où l'instruction va se poursuivre, il sera vu par les experts qui nous détermineront si on est face à quelqu'un qui est dans un état normal ou si on a une altération, une abolition du discernement lorsqu'il a commis ces nouveaux faits.
Aux nouvelles expertises psychiatriques demandées aussi dans cette première affaire, renvoyée à tout début septembre pour plus de sérénité. D'ici là, l'accusé repart en prison. Il devrait être transféré bientôt dans une unité spécialisée pour les détenus difficiles qui ont besoin de soins psychiatriques en continu.
Cindy Hubert à Reims pour RTL.
Beaucoup de questions à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais après le suicide de Lindsay, alors que 4 mineurs sont mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide.
Une personne majeure est-elle aussi mise en examen pour menace de mort? L'INSEE, qui aurait dû fêter ses 14 ans avant-hier, a mis fin à ses jours le 12 mai dernier. Sa famille avait pourtant alerté sur le harcèlement qu'elle subissait. Et au-delà de l'émotion dans son collège aujourd'hui, c'est aussi l'absence de réaction suffisante face à ses appels à l'aide qui interpelle ses camarades, Franck Hanson.
Et sur les grilles du collège Braque des Rousseaux, des dizaines de fleurs, des t-shirts blancs « Justice pour l'INSEE » sont toujours accrochés en rentrant en cours. Les élèves restent marqués, en colère aussi, contre un manque de réaction de l'établissement.
Tout le monde est un peu choqué en fait que l'INSEE soit ôté la vie en fait. Ils n'ont jamais rien fait. J'ai ma petite sœur qui est dans le collège aussi et qui se fait harceler personnellement. Ça fait depuis l'année dernière qu'on leur envoie des signaux. Pour l'INSEE, ils n'allaient rien faire non plus. Et la seule chose qui a changé, c'est qu'il y a eu une cellule psychologique mise en place.
On la voyait qu'elle venait moins souvent ici. On ne savait pas vraiment exactement ce qui se passait parce que c'était entre elle et les filles. On a su qu'elle avait déposé des lettres, qu'elle avait parlé au CPE. Franchement, ils auraient dû l'aider. On voyait un peu dans la cour qu'elle se cherchait, mais après, on savait pas forcément qu'elle se faisait harceler.
Moi, les harceleuses, je sais qu'elles ont pris que 8 jours d'exclusion. Je trouve que c'est juste pas assez.
Le rectorat de Lille précise qu'une commission harcèlement avait été instaurée, des élèves ainsi que les familles reçues. Une cellule psychologique est toujours active. Ces adolescents attendent au moins une prise de conscience.
Ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire en sorte que le collège il se rende compte de ce qui se passe. On essaye de faire bouger les choses.
Oui, tout le monde est plus vigilant dans le collège. Il faut rendre justice à l'INSEE.
Réfugiée chez des amis, la maman de l'INSEE et son compagnon attendent aussi des sanctions exemplaires. L'enquête du commissariat de Lens se poursuit.
Franck Hanson à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais pour RTL. L'alerte enlèvement levée. Les enquêteurs s'orientent désormais vers la piste d'un départ à l'étranger d'Eya, cette petite fille de 10 ans enlevée par son père hier matin sur le chemin de l'école à Fontaine dans l'Isère. D'après le procureur de Grenoble, la Suède et la Tunisie, dont le père possède la nationalité, sont des destinations possibles.
RTL Midi. Le gouvernement appelle le groupe Total Énergie à aller plus vite sur le développement des énergies renouvelables.
Appel lancé par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher alors que s'est ouvert ce matin l'Assemblée Générale du groupe à Paris dans un climat houleux puisque les actionnaires ont été accueillis à Arnaud Touche par des militants écologistes, des militants du climat qui sont dans leur rôle d'alerter, a dit il y a quelques minutes la première ministre Elisabeth Borne. Mais Arnaud, la rencontre entre ces deux mondes qui décidément ne se comprennent pas.
Oui, clairement, dès qu'un actionnaire se dirige vers la salle, les militants le suivent en meute et le conspuent. Ce petit porteur, avec une goutte de sueur sur le front, en a fait les frais.
Ils veulent pas de pétrole, ils veulent rien du tout. Seulement, c'est les premiers à rouler en bagnole et à prendre l'avion et tout ça. Ils se déplacent comment, hein? Alors, s'il n'y a plus d'essence, comment ils vont faire? Avec leur patinette?
Ça vous révolte?
Oui, ça me révolte, monsieur. Parce que les manifestations, ils peuvent les faire à un autre moment. Là, c'est une assemblée, c'est ne pas laisser s'exprimer les autres.
Vous êtes un petit actionnaire depuis longtemps chez Total?
Plus de 50 ans.
Je vous sens énervé, quoi.
C'est... Bah, écoutez, quand on vient ici, qu'on est accueilli par des sauvages, oui.
Et certains actionnaires sont escortés par la police pour pouvoir rentrer, mais Jean-François Guyon, membre de l'association altermondialiste ATTAC, assume cette manifestation.
Le but, c'est de faire prendre conscience au pouvoir public pour qu'ils agissent et évidemment de faire prendre conscience à tout le monde, donc évidemment aussi aux personnes comme lui qui doit comprendre, en voyant ce qui se passe, que c'est problématique d'investir dans une société qui a de tels agissements, en fait.
Alors, les associations reprochent à Total des projets climaticides et à l'intérieur de la salle Pleyel, eh bien, les actionnaires doivent voter notamment pour ou contre une hausse du salaire de 10% du PDG qui pourrait atteindre 10 millions d'euros. Une assemblée sans portable ni sac à main interdit dans la salle cette année.
Arnaud Touche, salle Pleyel à Paris pour RTL.
Une nouvelle menace pour l'Ukraine. Le président biélorusse Loukachenko assure que la Russie a commencé à transférer des armes nucléaires vers son pays.
Pas de commentaire à ce stade de Moscou, mais la décision avait bien été annoncée par Vladimir Poutine en mars dernier. Émilie Beaujard, ce déploiement d'armes nucléaires tactiques, est loin d'être anodin.
Et oui, car ce sont des armes nucléaires et que c'est la première fois que la Russie transfère de tels engins hors de son territoire depuis la chute de l'URSS. Alors ces armes sont des armes tactiques, vous le disiez, et non stratégiques, ce qui veut dire que leur charge explosive est moindre. Elles peuvent être déployées sur des avions, des navires ou des troupes au sol. Le but, c'est de les utiliser sur un champ de bataille, une ligne de front, mais pas de détruire une ville entière. Reste qu'avec ce transfert, des armes nucléaires russes seront désormais aux portes de l'Union européenne et que la Biélorussie se retrouve de plus en plus coincée sous la coupe de Moscou. Ces armes nucléaires tactiques seront d'ailleurs stockées et contrôlées par du personnel russe en Biélorussie. Vladimir Poutine, lui, fait un nouveau pas vers l'escalade et l'intimidation.
Émilie Beaujard du service international d'RTL.
Et puis direction le Stade de France à présent où l'on attend ce soir Queen Bee.
La chanteuse américaine Beyoncé revient en effet à Paris avec son Renaissance World Tour, un événement très attendu par ses fans. Valentin Larquier, ils sont d'ailleurs plusieurs dizaines à avoir passé la nuit devant le Stade de France pour être certain d'être aux premières loges ce soir.
Oui, il faut être déterminé pour voir Queen Bee de près. Certains ont dormi à même le sol, comme devant la porte K où je suis. C'est le cas de Quentin. Il est arrivé hier de Normandie et lui, il n'avait pas du tout prévu de passer la nuit au pied du stade.
Je voulais voir où était placée la porte K et j'ai vu qu'il y avait déjà une dizaine de personnes. Du coup, je me suis dit non, c'est mort, j'y vais directement. On a acheté couverture de survie, la chaise de camping, enfin, on a tout acheté d'un coup.
Maintenant, ils sont plusieurs centaines à attendre avec nourriture et boissons pour tenir jusqu'à ce soir. Des fans qui veulent être donc au plus près de leur star, puisque voir Beyoncé en concert, ça se paye cher. Certains ont déboursé 500 euros, ça peut sembler énorme, pas pour Robson.
Et on est quand même en carré VIP, entre guillemets, donc je voulais mettre de mon côté toutes les chances de bien l'avoir, d'être bien placé. C'est pas du tout un sacrifice, étant donné ce qu'elle va nous donner en retour. Les billets les plus chers étaient 3000, je les aurais donnés sans problème.
Kenza et Feji sont eux arrivés à 5h ce matin, chapeaux argentés sur la tête. Ils vont vivre leur premier concert de Beyoncé.
C'est vraiment le jour de ma vie, on va dire.
C'est pour ça qu'on est venu très tôt.
Voilà, ouais.
Il y a un moment du concert que vous attendez particulièrement.
J'espère qu'elle va chanter Eden, la meilleure musique.
Et je vous laisse donc avec Eden, interprété par ce duo de fans.
Jean-Michel Rascol est entré dans ce studio. Il a été témoin le 5 juin 1983. Il était présent physiquement à Roland-Garros, à un moment où Yannick Noah a gagné. Vous vous rendez compte?
Et il va nous en parler dans...
Après la météo.
Exactement.
Ce que vous voulez dire.
Cette petite musique, c'était une forme de rappel à l'ordre de Damien Béchiot qui vous disait que vous aviez tourné une page de trop.
Non.
Le temps, donc, Valérie Quintin, pour cet après-midi, s'il vous plaît.
Parfait pour le tennis, justement, parce qu'il ne va pas faire trop chaud et il va faire très beau. Alors, on a un petit peu de vent quand même qui va se lever, qui va se renforcer cet après-midi sur la moitié nord. On attend des orages dans le sud, comme ces derniers jours et comme pour les prochains jours également. Ça commence d'ailleurs à se former dans le Massif central. Orages qui vont concerner les Pyrénées, le Massif central, mais également la région Rhône-Alpes et la Corse. Le pourtour méditerranéen, lui, devrait rester sous de très belles éclaircies. Restent les températures plutôt douce, 20 degrés à Rouen cet après-midi, 24 à Paris et Metz, 25 à Dijon, 26 pour Nantes et Nice et 27 degrés à Limoges et à Toulouse.
Merci Valérie.
On en parle dans une seconde. Est-ce qu'un jour vous reverrez un Français gagner à Roland-Garros?
J'espère, pourquoi pas. Bonjour Pascal.
Ah, à mon avis, vous serez en retraite. 12h42, à tout de suite.
Il y a une façon élégante de vous introduire.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
La première balle de Noah est bonne. Retour de Villander. Elle est faite. Il a gagné. Yannick a gagné. C'est Yannick Noah qui s'est jeté à genoux.
C'était le 5 juin 83. Yannick Noah devenait le premier et seul Français encore aujourd'hui à remporter le tournoi Roland-Garros chez les hommes. Rebonjour Jean-Michel Rascol.
Oui, bonjour.
Vous étiez porte d'Auteuil ce
derrière
jour-là.
Derrière Fabrice Balédan, qu'on vient d'entendre d'ailleurs.
Petit chanceux que vous êtes. Et vous savez qu'il y a assez peu de chance, a priori, pour que vous reviviez un tel exploit cette année.
Oui, la probabilité est infime. Il faut dire que à l'époque, le succès de Noah était possible. Il était envisagé au début de la quinzaine. Il avait d'abord remporté deux tournois avant de se présenter Porte d'Auteuil. Il faisait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Son tennis offensif dégageait de la force. Aujourd'hui, on se réjouit parce que le tirage au sort a désigné 4 duels franco-français au premier tour dans cette édition 2023, ce qui signifie qu'il y aura au minimum 4 joueurs tricolores au deuxième tour. Vous le constatez, on n'est pas vraiment dans la même dynamique. D'ailleurs, pour revenir à 83, on évoque souvent la finale de Noah, mais il faut aussi se souvenir qu'en demi-finale, il avait battu un autre joueur français, Christophe Roger Vasselin, qui au tour précédent avait dominé Jimmy Connors en 3-7. La terre battue était donc bien à l'époque le jardin du tennis français.
Oui, mais Roger Vasselin n'était pas un favori à l'époque. C'était
absolument
une énorme surprise en 83. Mais cette affaire de Roland-Garros est incompréhensible. Ça fait 40 ans. Il y a eu 160 grands chelems depuis 40 ans. On n'a pas gagné un grand chelem.
Chez les garçons.
Pourquoi ? Les Espagnols, les Anglais, les Américains, les Allemands ont gagné. Pourquoi ? Et personne n'a... Il n'y a pas de réponse à cette question.
Alors, il n'y a pas de réponse, mais si on revient à Roland-Garros, il y a une génération quand même composée des Gasquet, Tsonga, Monfils, Simon, qui aurait probablement mérité gagner.
Ça ne veut rien dire.
Bah, mérité,
ils ne sont même pas allés en finale.
Ils avaient au moins le talent, ils sont allés en demi-finale.
Ils n'ont pas allé en finale,
Et sans la domination de Rafael Nadal, sans doute qu'ils auraient pu se hisser en finale.
S'ils avaient été en finale, oui, ils n'y sont pas allés.
C'est une question de génération.
Et en demi-finale, Gasquet, il a fait une demi-finale ?
Gasquet
il a fait une demi-finale ?
Oui, Tsonga a fait une demi-finale.
À Roland-Garros ?
Mon fils aussi. Oui, il y a eu des joueurs qui se sont retrouvés à la porte du très haut niveau de Roland-Garros sans pouvoir
plus, c'était à la porte
du
cours de Roland-Garros que la porte d'une finale.
Bon alors, de quoi parle-t-on, ma chère?
Pourquoi c'est si difficile justement aujourd'hui, Jean-Michel, pour un tennisman français de marcher dans les pas de Noah? Qu'est-ce qui explique tout ça?
Alors, qu'est-ce qui explique ? Alors, on a parlé du talent, du physique, de la culture de la terre battue, qui n'est pas forcément la culture française. Les Espagnols naissent et grandissent sur la terre battue. Et puis, il y a sans doute aussi l'approche de la compétition, hein, le côté psychologique qu'on va peut-être aborder. Voilà, c'est pas un mythe. Il faut être fort comme joueur de tennis et il faut être fort dans sa tête.
Vous parliez des Espagnols. Qu'est-ce qui fait qu'on est moins bon qu'eux ? On pense à Nadal, certes, qui a eu une domination écrasante sur le circuit pendant plus de 15 ans, mais il y a Alcaraz aussi, il y a un renouvellement de génération chez eux.
Alors, justement, il y a le côté psychologique qui est peut-être pas assez prononcé chez les Français. Amélie Mauresmo en parlait ce matin au micro d'Amandine Bégaud. Les Français ont souvent été à la recherche du geste juste, du geste parfait. Tony Nadal, l'oncle de Raphaël Nadal, dit les joueurs français, ils jouent très bien au tennis, mais le tennis, c'est aussi une question de compétition, d'engagement, et à ce titre, les Français ne sont pas toujours présents. Vous vous souvenez d'André Agassi ? Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour André Agassi. Entre chaque point, il regardait sa raquette, il remettait son tamis en place. Ça ne voulait pas dire que ses cordes étaient déplacées, mais il se servait de ce mécanisme pour se resetter, c'est-à-dire ne plus se souvenir du point qui venait de se passer, de penser à l'échange qui allait venir. Et ça lui permettait surtout de ne pas péter les plombs comme le font parfois certains jeunes joueurs français sur le court.
Non, mais ils n'ont pas faim. C'est une génération qui a... C'est Gasquet, par exemple. Gasquet, c'est passionnant. Il était meilleur que Nadal.
Non, il n'était pas meilleur.
Quand il avait 11 ans, 12 ans, il battait Nadal.
Il l'a battu quelques fois, comme Nadal l'a battu aussi à cet âge-là. Il
avait et Gasquet...
Une précocité technique qui était admirable. Et
Gasquet, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon champion, qui était Gasquet, et puis le super champion ? C'est la volonté, la détermination, et il ne l'avait pas comme Nadal.
C'est exactement ce que dit l'oncle de Raphaël Nadal, Tony Nadal.
Et Nadal, après les matchs qu'il avait gagnés, il faisait un entraînement parfois. Parce qu'il n'était pas content du match qu'il venait de gagner. Ça s'est passé à Monaco.
Ça arrive souvent chez les athlètes de haut niveau qui se remettent soit à courir, soit à refaire.
Quel est le meilleur joueur français aujourd'hui ? Il est 31e à l'ATP, paraît-il ?
Oui, c'est vrai, on n'a pas de joueurs dans les 10 meilleurs. Alors, il y a un exemple assez frappant.
Non seulement dans les 10 meilleurs, mais dans les 20 meilleurs, dans les 30 meilleurs.
Je vais vous donner un exemple.
31e, notre meilleur joueur. Le tennis, on avait les mousquetaires, c'est un sport national, le tennis. On n'est pas fichu d'avoir un champion.
En 2016, Félix Auger-Aliassime, qui est aujourd'hui numéro 10 mondial, qui est canadien, perdait en finale junior à Roland-Garros face à un Français qui s'appelle Geoffrey Blancaneau, qui est aujourd'hui 162e et qui d'ailleurs cet après-midi tente de se qualifier pour le tableau final. Ça veut dire qu'en quelques années, la progression de ces deux jeunes a complètement été inversée. Il y en a un qui est monté vers le haut niveau et l'autre qui a stagné. Ça veut bien dire qu'à un moment, on a du mal à passer à l'âge adulte dans le tennis français. Et ça, il y a un côté psychologique, on en a parlé. La fédération d'ailleurs va engager des psychologues pour justement essayer...
Ce qui est marrant, c'est qu'au foot, on était fragile et on est devenu super fort. Et effectivement, là où on recrute les footballeurs, ce n'est peut-être pas là où on recrute les tennisman, et c'est peut-être aussi une des raisons. Parce que les footballeurs, ils ont faim.
Exactement.
Ceux qui viennent des quartiers d'où ils viennent, ils ont faim. Tennisman, c'est peut-être différent.
Les tennisman, il faut avoir la pensée positive. Alors pour conclure, je vais vous donner une citation de John McEnroe, que vous avez admiré comme moi, j'imagine. « J'ai plus de talent dans mon petit doigt que Lendl dans tout son corps », si ça, c'est pas de la pensée positive. Voilà, il faut se trouver des mécanismes pour arriver à se sublimer dans les moments importants.
Jean-Michel, vous n'y êtes évidemment pour rien. Je vous taquine un peu, mais ce n'est pas vous qui êtes responsable évidemment de ces échecs.
Ah, je l'espère bien, mais je le constate comme vous.
Il est 12h50. Et on va parler culture avec Bernard Lehu. À tout de suite.
RTL Midi.
Céline Landreau.
RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi avec aujourd'hui la reine du polar scandinave, la suédoise Camilla Läckberg. J'espère que je le dis bien, de passage à Paris et forcément à votre micro. Bonjour Bernard Lehu, elle publie son nouveau roman Le Culte.
Deuxième volume d'une trilogie que Camilla Läckberg a co-signé avec un célèbre mentaliste, lui aussi suédois, Henrik Fexeus, et qui a pour originalité, Bernard, de mettre en scène une inspectrice de police et justement un mentaliste.
Et oui, et le premier tome, La boîte à magie, a été un vrai succès. Alors on retrouve ici Vincent Walder, dont les facultés paranormales, sa capacité entre autres à lire dans les pensées des criminels, en fait un partenaire précieux pour Mina Dabiri, qui est enquêtrice à Stockholm. Deux héros pour deux auteurs, Camilla Läckberg et Henrik Fexeus, qui apportent à la star du polar son expertise de mentaliste et qui l'accompagnent. Et je m'étrangle, c'est sans doute le Suédois, et qui l'accompagne pour la sortie du livre en France. Alors j'ai d'abord voulu savoir comment ils écrivent ensemble.
On se répartit les scènes, nous les écrivons chacun de notre côté, et puis on se les renvoie. Et nous sommes libres alors, tous les deux, de les remanier à notre guise.
Et alors, est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'on se dit parfois, il peut peut-être y avoir des échanges un peu plus vifs, voire des désaccords? Comment ça se passe en général?
En ce qui nous concerne, ça s'est toujours bien passé, comme on se connaît bien, et depuis longtemps, ça fait une quinzaine d'années maintenant que nous sommes amis. Il n'y a pas de problème de prestige ou d'ego entre nous. Ce qui prime toujours, c'est ce qui est bon ou pas pour le livre.
Alors Bernard, parlez-nous un peu du duo original d'enquêteurs qu'ont imaginé Camilla Läckberg et Henrik Fexeus.
Eh bien, c'est l'une des réussites de cette trilogie. Deux personnalités riches et complexes, Vincent le mentaliste aux facultés hors normes, mais aux doutes existentiels, et Mina, enquêtrice redoutable, mais alors complètement névrosée, victime notamment de la phobie des microbes. Faut-il y voir en partie des doubles de leur créateur?
Henrik är ju i princip Vincent. Jag säger fel namn ibland när vi har skrivit.
Pour Vincent et Henrik, c'est une évidence qu'ils ont des points communs. Il m'arrive d'ailleurs de confondre les deux prénoms en cours d'écriture. En ce qui me concerne, je suis très différente de Mina, à part peut-être son opiniâtreté. Par contre, je ne partage absolument pas sa phobie des microbes. Il m'arrive même, quand on est entre amis, de lécher le portable de l'un d'entre eux par jeu, par provocation. Non, vraiment, aucune peur des microbes chez moi.
C'est étonnant comme confidence quand même. Sur quelle affaire vont enquêter l'inspectrice Mina et le mentaliste Vincent dans le culte?
Eh bien, une série de disparitions d'enfants qui va les orienter sur la piste d'une secte très inquiétante. L'un des flics du livre souligne que les enquêtes concernant des enfants sont les plus traumatisantes. Et pour Camilla Läckberg et Henri Fexeus, qui en font un roman?
Oui, ça vaut aussi pour nous, écrivains, évidemment. Et d'autant plus quand on est parent. Il est difficile d'imaginer pire comme épreuve à vivre. Et c'est important de partager cette sensibilité pour se mettre dans la peau de nos personnages.
Camilla, a fortiori quand on est maman.
Dans toute mon œuvre, j'ai souvent mis en scène les enfants et les drames qui les frappent. Je pense que tout cela est lié au fait que je suis devenue écrivaine en même temps que je devenais une mère de famille. Donc pour moi, écrire et travailler sur ses peurs a eu une espèce de vertu thérapeutique.
Le culte, le deuxième volume de la trilogie policière de Camilla Läckberg et Henrik Fexeus paraît chez Actes Sud. Avant de les quitter, j'ai demandé au duo s'il y avait un autre auteur, mort ou vivant, avec lequel ils auraient rêvé d'écrire à quatre mains.
Non, pas du tout. Moi, je suis encore sous le choc d'avoir réussi à relever ce défi avec Camilla. Donc, je n'imagine personne d'autre avec qui j'aurais pu écrire.
Camilla.
Je pense qu'avec Agatha Christie, on aurait vraiment pu s'amuser toutes les deux. En dehors de ce que vient de dire Henrik, et je suis d'accord avec lui, et je suis persuadée, oui, qu'avec Agatha Christie, on aurait passé de bons moments ensemble.
Et puis alors là, vous auriez écrit des méga best-sellers. Läckberg, Christie.
Ah oui, il faut l'espérer.
Voilà, Camilla Läckberg. Alors que l'on relira l'an prochain avec un nouveau volume de l'enquêtrice qui l'a rendue célèbre, Erika Falk, dans son village de pêcheurs suédois désormais mythique, elle l'a rendue mythique, Fjällbacka. Je sais que la nouvelle va ravir tous les fans de Camilla Läckberg. Rendez-vous l'an prochain donc.
Merci beaucoup Bernard Lehu.
Dans quelques instants, c'est vous qui prenez la parole. On va parler notamment d'immigration, mais on sera également, je vous le rappelle, avec Stéphane Boutsock à partir de 14h en direct de Cannes. Et puis on parlera de l'Olympique de Marseille. Et si je parle de l'Olympique de Marseille, eh bien, je vais vous rappeler que vous pouvez suivre le podcast
Alors, vous pouvez effectivement, si ces célébrations autour du 30e anniversaire de la victoire de l'OM en Ligue des Champions vous passionnent, allez écouter le podcast Focus de la rédaction. Deux épisodes sont consacrés à cette journée historique pour le sport français. Deux épisodes qui sont signés Julien Cellier.
Et qui s'appelle À jamais les premiers, les Focus de la rédaction. Donc allez-y, c'est important et c'est intéressant. À tout de suite.
RTL Midi.